Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de vous présenter et de vous proposer cette deuxième émission des Rendez-vous du droit. Émission qui, vous le savez, a pour but de vous aider à parfaire votre connaissance de l'introduction au droit privé. Vous avez la leçon qui se déroule en cours magistral. Vous avez les ouvrages, ceux que vous lisez, ceux que vous faites aussi. Vos exercices, ce sont des petits ouvrages que vous faites pour les travaux dirigés. Et puis, nous avons cette émission, les Rendez-vous du droit, où on apprend en conversant. Le but, c'est de faire en sorte que plus vous écoutez du droit, eh bien, plus vous vous familiarisez avec le langage et qu'à la fin, vous parlerez de l'article 1240 du Code civil. Comme on dirait, passe-moi le sel. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, on est trois. À ma droite, Elena Passea. Qui êtes-vous?
Je suis doctorante à l'Université Paris 1 et je fais ma thèse sur le principe nebis in idem.
Ah oui, alors ça, c'est du latin, mais ça n'en dit pas plus. Vous pouvez expliquer ce que c'est?
Si je devais vulgariser ce principe, je dirais, dans la vie, il faut être bon, mais pas deux fois, sinon on devient bonbon et les gens nous mangent.
Ah, ça c'est oui, ça c'est étonnant. Alors, vous allez travailler 4 ans ou 5 ans là-dessus?
Même plus.
Bon, alors, ça va faire beaucoup de bonbons à la fin.
Oui.
Et plus sérieusement, vous allez... non, parce que c'était... Non, mais c'était... C'est marrant, mais je pense quand même qu'il y a... Ne vulgarisez pas, dites en droit ce que ça veut dire. Je suis sûr qu'ils vont comprendre.
En droit, il ne faut pas être poursuivi, jugé ou puni deux fois pour le même fait. Donc, si nous avons volé un cahier, on est jugé, on est condamné, mais il ne faut pas être rejugé et recondamné pour le vol de ce même cahier.
Et pareil pour la fraude fiscale. Bon, enfin, ça n'a rien à voir avec le... Enfin, comme c'est les affaires dont on parle un peu en ce moment. Et vous, Maëva Atchiamon? Qui
Je suis également en doctorat sous la direction du professeur Rochefeld et je travaille actuellement sur les rapports entre l'identité et l'oubli. Donc si je dois être plus précise, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail. Auparavant, pour que les individus s'inscrivent dans l'histoire ou perdurent, ils laissaient des écrits derrière eux. À l'heure actuelle, avec l'évolution des nouvelles technologies, nous voyons évoluer et émerger une mémoire par défaut. Et en fin de compte, je travaille justement sur l'appréhension de ces nouveaux phénomènes.
Vous qui passez un petit peu de temps quand même sur les réseaux, je pense un peu trop de temps, vous voyez que vous pourriez un jour être soucieux de votre droit à l'oubli. Bon, alors, aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est qu'on commence le format hebdomadaire de l'émission Les Rendez-vous du droit. Donc, on ne va plus beaucoup, même pratiquement plus, parler de méthode. On va aborder nos trois thèmes consécutifs, qui seront les questions que vous vous posez, le droit par l'exemple, et pour aller plus loin, sauf que, au préalable, Maëva a un petit conseil à vous donner, un dernier petit conseil de méthode, avant qu'on parle du fond.
Maëva. Voilà, exactement. Comme vous avez pu le constater, vous avez différents supports. Les travaux dirigés, les vidéos, le cours d'amphithéâtre, mais également le cours écrit qui est disponible sur l'EPI. Ce que je conseille à mes étudiants, lorsque cela est possible, c'est de lire le cours écrit. À quoi cela va vous servir? Ça va vous servir à appréhender la terminologie juridique.
En fait, vous êtes très gentil. Maëva dit si c'est possible, parce qu'en fait, je vous conseille de lire le cours écrit avant de venir suivre le cours magistral. Bon, sauf que parfois, le cours écrit n'est pas encore prêt. Voilà. Donc ça, c'est en théorie. Voilà. Mais s'il n'est pas prêt, vous le lisez après. Mais dites-nous quand même, comment vous suggérez aux étudiants d'articuler le cours oral et le cours écrit?
Et bien justement, de le lire avant pour appréhender la terminologie, pour pas que vous soyez surpris par l'usage de certains mots. Donc là, vous avez une première vision du cours. Ensuite, vous vous rendez en cours d'amphithéâtre. Là, vous apprendez différemment le cours puisque vous le recevez par oral. Donc, vous l'écoutez, le cours. Et enfin, ce que je conseille à mes étudiants, c'est peut-être pas le soir immédiatement, mais 2 ou 3 jours après, de fusionner vos notes ainsi que le cours écrit. Et là, vous avez une troisième vision du cours. Et je pense qu'au bout de ces 3 études différentes, vous avez vraiment une bonne approche du droit privé.
Deux choses. Donc, ici, bah, on écoute, c'est tout. Voilà, on regarde et on essaie de ne pas s'ennuyer. On fait tout pour que ce soit pas trop ennuyeux. Et voilà. Donc, deux choses. La base, c'est vos prises de notes que vous enrichissez avec tout ce qui vient s'ajouter. Et deux, à un moment, il faut quand même apprendre. Hein. Voilà. N'oubliez pas, si ça rentre par imprégnation, c'est bien. Il y a un tout petit moment où il faut quand même faire un effort. On a assez parlé de méthode, on aborde tout de suite le fond. Et donc, première séquence, les questions que vous vous posez. Les questions que vous vous posez, mais vous m'en avez déjà posé des questions. Et la première question, celle qui vient systématiquement à la fin du premier cours, je descends les quelques marches de l'amphi, et ça arrive également chargé de travaux dirigés. J'ai donné la première définition des règles de droit, normes abstraites et générales, permanentes, et l'abstraction, chez certains, ça coince un peu. Comment vous faites, Maya, pour répondre à des étudiants qui disent « j'ai pas compris ce que c'est que l'abstraction ?»
Alors, pour leur répondre, je leur explique que l'abstraction, c'est la saisine des traits caractéristiques d'une règle de droit de façon totalement abstraite. Vous devez l'opposer à tout ce qui est concret. Donc, c'est une trait caractéristique d'une règle de droit qui a vocation à s'appliquer de façon indéfinie à une même situation lorsque les conditions sont remplies.
Oui. Alors, Elena, vous faites comment pour clarifier ?
Tout à fait, c'est par rapport à la formulation de la règle qui nous éloigne de ce qui est concret et nous envoie vers une situation illimitée.
Oui, alors, mais c'est, en fait, on n'arrive jamais, on essaye de le dire de 40 façons différentes et on a toujours du mal à le clarifier. Moi, je vais juste dire un truc tout bête, mais vous avez déjà été interrogé à l'oral, ne serait-ce que pour le bac français, vous avez déjà passé des premiers oraux, et je pense qu'il y a un prof qui a déjà dû vous dire. Là, vous avez employé tel mot, vous pouvez me le définir. Et vous, vous avez répondu en disant « Ah, par exemple, c'est quand ?» Alors, on dit « Ah, on ne dit pas « par exemple, c'est quand ?» Donnez-nous une définition, c'est-à-dire quelque chose qui vaut en tout temps, en tout lieu. Je prends un exemple idiot, un arbre, c'est quoi ? C'est un végétal avec des écorces. Voilà, ça, c'est une définition, c'est formulé en termes abstraits. Hein, donc, l'abstraction, c'est s'abstraire du réel. Donc, je crois que c'est comme ça. On définit une situation qui est susceptible de se reproduire, mais qui est susceptible de ne jamais arriver. On se place en dehors du monde réel pour définir un modèle théorique. Voilà. C'est comme ça. C'est ce degré de complexité qu'il faut intégrer. Du coup, la règle est générale, on dit.
Oui, exactement. Donc la règle générale, ça veut dire qu'elle a vocation à s'appliquer à un nombre illimité de cas. Elle ne va pas s'appliquer à un cas concret, contrairement aux normes individuelles que l'on verra plus tard.
On verra plus tard les normes individuelles. Vous voulez ajouter quelque chose, Eda, sur la généralité ?
Non,
c'est okay. Alors, abstraction générale, on dit aussi que la règle est conditionnelle.
Oui, alors la règle conditionnelle, ça veut dire qu'il y a un si et un alors. Alors, je vais vous expliquer. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez en cours de mathématiques, vous aviez des propriétés ?
C'était il y a longtemps.
Oui, il y a un petit peu longtemps pour certains d'entre nous, mais si deux droites sont parallèles à une même droite, ces droites sont parallèles entre elles. Vous avez un si, un alors. C'est-à-dire que lorsque les conditions du si sont remplies, vous avez une conséquence. C'est exactement le même phénomène en droit. Vous avez une règle juridique. Si l'ensemble des conditions sont remplies, alors vous avez une conséquence juridique. Elena, tu veux donner un exemple ?
Nous pouvons citer l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Oui. Mais c'est pas. Il est où le si alors ?
Vous avez commis une faute. Si vous avez commis une faute, alors vous êtes obligé de réparer le préjudice causé.
Oui. Donc, vous dire s'il y a une faute, un dommage, une causalité. Donc, déjà, vous voyez, mais c'est pas. Bon, le droit, c'est pas des maths quand même. Hein.
Non, mais c'est le même principe.
Tiens, alors, moi, je fais un petit jeu. Principe. Article 2285 du Code civil. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Alors, ça, est-ce qu'on peut le mettre sous la forme « si alors » ?
Bah, là, ça devient plus compliqué. C'est moins évident que l'article qui a été donné par Elena tout à l'heure.
Et alors, c'est difficile parce que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si une personne est endettée, eh bien, et qu'elle a des créanciers, donc évidemment qu'elle a des créanciers, et qu'elle a plusieurs créanciers, eh bien, ces créanciers concourent en principe à égalité sur les biens. Mais vous voyez, déjà, ça devient compliqué parce que concourent à égalité, je ne suis pas sûr que ce soit absolument évident pour tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, les créanciers peuvent se saisir des biens et que sur le produit de la vente de ces biens, eh bien, ils se partageront ce qui reste, ce qu'on appelle le produit de la vente, le prix, se partageront le prix résiduel entre eux et en principe à égalité. Donc, vous voyez, mais les phrases sont rarement données sous la forme « si alors ». Et il faut être capable, justement, ça c'est l'effort du... c'est votre premier effort d'apprenti juriste, de comprendre où sont les conditions, où sont les effets. Alors, il y a des règles qui ne sont pas sous cette forme-là.
Non, c'est ce qu'on appelle des principes. Alors déjà, le mot principe, il faut que vous compreniez qu'il est polysémique, surtout en droit.
Donc, d'une part... En droit, tous les termes sont polysémiques. Voilà, entrez-vous bien ça dans le
contrat.
Voilà, donc, il y a une définition, mais il y a des usages. Il y a parfois deux définitions. Et s'il y a une définition, il y a des usages hors définition qui sont autorisés. On s'y fait avec le contexte. Pardon, je vous ai interrompu.
Voilà, exactement. Donc, la première définition que l'on peut donner du mot principe est le fait que c'est une règle qui ne soit pas conditionnée. C'est-à-dire qu'une règle qu'on ne peut pas mettre par si ou alors, on a le droit de bénéficier de ce droit juste en étant né.
Exemple.
L'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Nous pouvons citer les articles de la Convention européenne des droits de l'homme.
Oui. Mmh. Le droit à la présomption d'innocence, la liberté, le droit à la vie.
Le respect de la vie privée et familiale.
Oui.
Et le second sens dans lequel on utilise, puisque je vais revenir donc à mon propos, c'est le fait qu'en droit, vous avez des mécanismes. Notamment le principe, le mécanisme, pardon, principe-exception. Et souvent, de façon courante, nous utilisons le mot principe pour expliquer la règle qui va s'appliquer de façon la plus générale, quasiment presque par défaut, avec des exceptions qui sont différentes.
Vous voulez illustrer ? Si vous voulez pas, je le fais.
Allez-y, je vous en prie.
Non, mais juste, on vous dit, dans les matières, il va y avoir un ensemble de règles. Et on vous a déjà dit, je l'ai dit, les chargés de travaux dirigés vous le disent, le droit, ce n'est pas un agrégat de règles, c'est qu'on pose des unes sur les autres. Tout ça, c'est ordonné, c'est rangé. Pour mettre en ordre un ensemble de règles, généralement, on met un principe des exceptions. Le droit des contrats, le principe, c'est la liberté contractuelle. On contracte si on veut, avec qui on veut, et on écrit ce qu'on veut dedans. Ça, c'est le principe. C'est la règle de principe. Évidemment, cette règle de principe connaît un certain nombre d'exceptions. Donc, on utilise le mot principe pour désigner un type de norme, les règles sans condition, et on utilise le mot principe pour catégoriser un certain type de règles et pour dire parmi les règles dans une matière donnée, il y en a qui, par leur contenu, sont des règles de principe. Alors ça, il faut bien comprendre la distinction. Généralement, en fonction du contexte, vous comprenez qu'on vous parle du principe au sens c'est la règle de principe ou qu'on vous parle d'un principe au sens une règle inconditionnée. Ça s'entend.
Voilà. Oui, le principe est extrêmement important en droit pour comprendre le sens des mots. Voilà, ne vous focalisez pas sur un mot abstraitement, disons-nous, mais plus contextualisez-le pour bien en comprendre la portée.
Mais on comprend d'autant plus aisément avec le contexte qu'on a d'abord fait l'effort de bien s'imprégner de la distinction théorique. Voilà, ça, c'est le... Alors, c'est pas fini, hein. Norme individuelle la plus mal nommée. Léna, vous voulez...
Oui, si on pense déjà au jugement, au contrat, donc par rapport à l'abstraction, c'est quelque chose de concret.
Oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir des normes individuelles qui visent plusieurs personnes ?
Oui. Ah, si on se réfère à des professions.
Oui, mais ça, est-ce que c'est encore une norme individuelle ? Bon, si je dis les occupants, j'ai un jugement qui prononce l'expulsion de tous les occupants sans titre. C'est la façon juridique de dire les squatteurs. Qui prononce l'expulsion sans titre de tous les occupants sans titre, donc d'un immeuble. Ça vise tous les occupants. Donc ça, c'est une norme individuelle ou c'est une norme générale ?
Voilà, ce sera une norme individuelle qui a vocation à s'appliquer qu'à eux. Là où on peut prendre l'exemple d'une norme générale...
Ça veut dire qu'une norme individuelle peut désigner un ensemble d'individus.
Oui.
Voilà, simplement, on sait qui c'est.
Voilà, et de manière inverse, une norme générale peut désigner une catégorie particulière. Alors. Par exemple, les lois qui vont concerner... Les professionnels, admettons, ou les médecins, ou une catégorie professionnelle particulière, elles vont avoir vocation à s'appliquer à toute la profession. Et il s'agit de loi, et la loi est quand même l'exemple type de la norme générale.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit les médecins doivent les soins aux personnes malades, ça veut dire que quiconque exerce la profession de médecin, devra des soins malades. Donc c'est bien une norme abstraite et générale. Hein, on désigne une situation par la fonction de celui qui va intervenir, le médecin, et quiconque, vous, nous, a priori on ne va pas devenir médecin, mais si on devenait médecin, eh bien on vous donnerait des soins. Là, il se trouve qu'on n'est pas médecin, on est prof, on est enseignant en droit, et donc on vous doit des leçons de droit. Et ce n'est pas fini. La contrainte qui est si importante en droit, Comment vous la définiriez, Maëva ?
Alors, la contrainte, c'est voilà, ce qui définit véritablement la règle de droit et qui, par exemple, va la différencier par rapport à la morale. La contrainte, c'est-à-dire que s'il n'y a pas respect de la règle juridique, il va y avoir sanction. Ces sanctions peuvent être de nature civile ou alors de nature pénale.
Oui.
Ça dépendra de la nature de la règle.
Alors, il y a des règles, c'est la bizarrerie du droit. Il y a de la contrainte, mais dans le monde de la contrainte, tout le monde n'est pas au même niveau. Bref, il y a des règles qui sont contraignantes sans l'être. C'est ces fameuses règles supplétives. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie, les règles supplétives ?
Si on souhaite choisir notre juridiction, par exemple une juridiction arbitrale.
Là, déjà, là, il y a deux mots. Juridiction, je pense que vous comprenez, chers amis. Mais arbitrale, là, je suis un peu moins convaincu quand même. C'est quoi une juridiction arbitrale ? M'expliquer, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'il y a. Qu'est-ce que c'est une juridiction arbitrale ?
On choisit, on désigne les arbitres qui vont intervenir dans notre litige par rapport à une juridiction qui est assurée par l'État. Et imposé par l'État dans un cas concret.
C'est une justice privée.
Oui.
La justice peut être privatisée. Alors, ça coûte à un certain coût, mais en tout cas, dans le monde des affaires, et spécialement des affaires internationales, la justice peut être privatisée. Bon, c'est une petite incidente qu'on fait là en cours d'émission. Et donc, par exemple, deux grandes entreprises, l'une française, l'autre chinoise, l'autre américaine, peuvent décider, si elles font un contrat ensemble, qu'en cas de litige, leur procès sera soumis à des juges qu'elles désigneront, selon des process qui sont assez bien codés au niveau international, mais ce ne sera pas la juridiction d'un pays. Et ce qui est une situation plutôt rassurante pour les acteurs du commerce international. Bien. Alors, on revient maintenant à des choses plus prosaïques. Vous verrez ça probablement pas avant la quatrième. Enfin, c'est bien de savoir que ça existe, parce qu'on a parlé d'un arbitrage quand même qui a fait grand bruit dans la grande presse, qui était l'arbitrage dit Tapie, mais qui est la plus mauvaise illustration de ce que peut être un bon arbitrage. Alors, supplétif, ça veut dire quoi alors ?
Supplétif, nous ne sommes pas obligés, donc on peut remplacer certains normes par d'autres selon notre volonté, par rapport à une norme qui est impérative et qui nous tient.
Mais est-ce qu'elle reste contraignante, la règle supplétive ?
C'est-à-dire que la règle impérative, vous ne pouvez pas y déroger. La règle supplétive aura vocation à s'appliquer lorsque les parties n'y ont pas explicitement dérogé dans le contrat.
Donc la question finalement se pose par rapport à la possibilité de faire le choix en cas de norme supplétive.
D'accord, mais c'est vrai que si on n'a pas fait de choix, la règle supplétive s'applique.
Oui.
Et là, on n'a plus le choix, si j'ose dire. Voilà. Et donc la règle supplétive, à défaut de choix contraire, devient impérative finalement. À la fin, elle s'applique impérativement si les parties n'ont préalablement pas fait de choix.
Oui, parce que justement, les parties ne peuvent pas... ne pensent pas à absolument tout dans leur contrat, donc n'inscrivent pas tout, donc la règle supplétive va venir pallier parfois les lacunes qui peuvent exister.
Oui. Alors, il y a aussi un exemple, c'est en dehors, parce qu'on a parlé des contrats, c'est déjà un mot, vous avez entendu, par exemple, quand un couple se marie, certains font le choix d'organiser ce qu'on appelle leur patrimoine commun, ou même leur patrimoine respectif, en tout cas vont organiser les questions matérielles, les questions d'argent au sein du couple, puis d'autres ne vont pas y penser. Parce que ce n'est pas la première chose forcément à laquelle on pense quand on décide de se marier. Eh bien, il faut prévoir un régime, ce qui s'appelle le régime légal de communauté. C'est un ensemble de règles supplétives qui s'appliquent à défaut pour les époux d'avoir choisi un régime spécifique avant de se marier. Alors, s'ils n'ont pas fait de choix, le régime de communauté s'applique. Et là, du coup, il devient impératif. Voilà, il s'applique impératif. Abstraction, généralité, conditions, principes, règles de principe, contraintes, impératifs, supplétifs. Je pense qu'on a balayé un certain nombre de questions que vous vous posez. Si vous en avez encore d'autres, on y répondra à la sortie de l'amphi, à la sortie du TD. Mais je pense qu'il est maintenant temps de passer à notre second temps de cette émission. Le droit par l'exemple. Alors, le droit par l'exemple, je voudrais qu'on aborde deux thèmes en partant d'exemples, justement, pour partir du concret, pour remonter à des questions plus générales, qui sont aussi des questions assez délicates. Et les deux thèmes qu'on a retenus en préparant l'émission, c'est parler le rapport entre le droit et le fait. Et le second thème, c'est de donner des exemples, d'illustrer les différents effets de droit. Alors sur le premier thème, le droit et le fait, j'allais dire le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ça c'est du fait et personne n'a jamais imaginé que cette proposition était une proposition juridique. Bon, simplement, dans les faits sociaux, on rencontre des faits qui sont sources de contraintes, qui produisent de la contrainte et donc des choses qui vont ressembler un petit peu à du droit. Et quelle est la différence entre la contrainte juridique et ces autres contraintes qu'on trouve dans la vie en société et qui ne sont pas du droit? Bien, c'est des choses qu'on voudrait aborder. Avec, quand même, point de départ, la seule contrainte légitime, c'est la contrainte juridique. Et si on exerce, si quelqu'un exerce une contrainte sur autrui, ça, en principe, c'est pas possible. Ça s'appelle, d'ailleurs, en droit, ça a un nom. Il y a même un article, comme il a changé de numéro, j'ai évidemment oublié son numéro, mais peu importe, il y a un texte qui considère que l'exercice d'une contrainte sur autrui pour le forcer à faire quelque chose, ça s'appelle une violence, et ça rend l'acte auquel on force l'acte qu'on force la personne à faire, ça le rend nul. Voilà. Donc on ne peut pas exercer en principe de contrainte sur autrui, mais malgré tout, il y a des contraintes qu'il faut accepter, notamment déjà la contrainte sociale. Vous qui aimez bien les réseaux sociaux, Maëva, est-ce qu'il y a de la contrainte sur les réseaux?
Alors il n'y a pas de contrainte juridique. Il peut y avoir une certaine contrainte sociale. Et soyons réalistes, qui n'a jamais reçu une invitation sur des réseaux sociaux qu'il n'avait pas forcément envie d'accepter, puisqu'il n'avait pas forcément envie de nouer un lien virtuel avec la personne. Donc, il n'y a pas d'obligation qui va exister juridiquement. Vous n'aurez jamais une injonction d'accepter une invitation sur un réseau social. Injonction juridique, je parle. Cependant, il existe une contrainte morale, parce que cette personne qui vous a envoyé l'invitation, vous allez sûrement la recroiser. Et inévitablement, il peut y avoir la question de « Pourquoi tu ne m'as pas accepté ?»
Contrainte morale ou contrainte sociale?
J'irais peut-être contrainte sociale puisqu'on est sur des réseaux sociaux.
Oui, non, mais c'est qu'en fait, c'est plus le fait que vous allez être gêné. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris.
Oui.
Parce que moi aussi, les invitations, je revois, mais alors ça fait longtemps que je suis plus gêné. Mais le. sinon, un peu plus. Mais voilà, c'est qu'en fait, vous allez être gêné quand vous allez rencontrer le camarade en disant, bon, je n'ai pas répondu, etc. Mais moralement, c'est peut-être un casse-pied. Enfin, vous n'avez aucune obligation morale de créer des liens avec.
Moralement, vous n'avez pas d'obligation. C'est plus social quand vous souhaitez faire des interactions avec plusieurs personnes. Donc, vous pouvez sortir une certaine contrainte à l'accepter sur les réseaux sociaux ou à répondre positivement à son invitation.
Oui, parce que, Elena, c'est pareil, quand on préparait l'émission, elle nous a dit, moi, si je vais à une conférence où je m'ennuie à mourir, je n'ose jamais sortir avant. C'est vrai, ça.
Il faut faire attention, parce que si vous êtes assis au milieu de la salle, vous êtes peut-être contraint de respecter la personne qui donne la conférence, de respecter les autres personnes du public qui souhaite écouter la conférence, et vous avez une contrainte morale, une contrainte sociale aussi. Mais
si le conférencier est nul, qu'il n'a rien préparé, vous n'êtes peut-être pas obligé de rester quand même. Après tout, il va prendre votre temps, non?
Oui, mais.
Un peu provoque, là, mais.
Ça, c'est une question subjective aussi. Peut-être que si les autres restent, moi aussi, je suis contrainte de rester.
Mais est-ce que vous prendriez la même décision selon que vous êtes assis plein centre, si vous vous levez, vous allez déranger 15 personnes et vous allez faire du bruit, ou vous êtes assis tout au fond de la salle, tout près de la porte de sortie, et vous vous ennuyez? Est-ce que votre choix est le même, le choix de partir en plein milieu de la conférence?
Je crois que dans ce dernier cas, j'ai de la chance et je vais m'en aller.
Ah ben voilà, donc si vous partez pas, on vient. Là, c'est de la contrainte sociale. Voilà, c'est au sens que ça va être gênant. Voilà, on crée, et donc on n'est pas. On crée une rupture par rapport à ce que le voisinage attend, et donc on n'ose pas finalement. Mais c'est de la contrainte sociale. Alors celle-là, juridiquement, vous faites ce que vous voulez. Je crois qu'elle n'est pas plus forte, mais on a, pour le coup, des vraies contraintes morales. Là, je pense qu'on est, on se sent contraint de faire quelque chose, mais en considération de valeurs auxquelles on croit. Et ça peut être parfois un peu... ça peut d'ailleurs parfois assez pesant. Moi, j'avais en tête, quand on parlait l'engagement associatif, vous dites, vous engagez à faire une permanence le week-end, et puis vous n'avez pas envie de la faire, et puis la personne vous dit, mais si, tu t'es engagé, etc. Et alors, moralement, on se sent assez lié. C'est pas forcément, là encore, une contrainte juridique. Encore que, bon, ça peut le devenir... Vous aviez un autre exemple.
Oui, il n'y a pas quelqu'un. Moi, l'exemple que j'ai pensé quand vous nous avez soumis cette question tout à l'heure, c'était du déménagement. On a tous eu des amis qui ont déménagé un week-end, souvent sous la pluie ou en pleine chaleur au mois de juillet-août. Et on s'est engagé.
Ça commence au mois de juin maintenant.
Voilà, au mois de juin. Les chaleurs aussi, ce sont de commence, comme les déménagements. Et on a tous eu ce petit moment avant le déménagement où on se dit quand même. Mais en même temps, on avait une certaine contrainte morale en pensant à notre ami qui va descendre cet étage sans ascenseur, son lit et son armoire tout seul. Donc, il peut y avoir une certaine contrainte morale qui peut venir sur nous.
Faites-le, parce que sinon, c'est les parents qui se tapent. Alors, on aime beaucoup quand vos amis vous aident à déménager. Oui, mais là, moi, j'ai un exemple un peu bête. Donc, pour déménager, il y a un de vos amis qui vous prête un petit van, ce qui vous évitera d'en louer. Hein. Sauf que, pas de chance, le van tombe en panne. Et donc, du coup, le déménagement qui devait se faire le 30 pour libérer les locaux le 30 au soir, va se faire le 3. Et donc, il va falloir payer un loyer supplémentaire parce qu'on n'aura pas pu déménager le 30. Mmh. Et là, celui qui vous a prêté le van, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il vous a quand même mis dans une situation délicate puisque vous allez devoir payer un loyer en plus. Alors, est-ce que vous allez pouvoir lui faire payer le prix de sa moralité, mais qui s'est réveillé mauvais? C'est-à-dire qu'il a été gentil, vous a prêté une camionnette, mais la camionnette ne marche pas. Et du coup, vous allez vous prendre un mois de loyer en plus. Mmh.
Mais bon, oui. Est-ce que c'est de sa faute? Peut-être qu'il ne le savait pas.
Oui, non, mais ça, on se doute qu'il n'a pas fait exprès. Non, ce qui est intéressant, je fais cette petite digression, c'est que le droit va tenir compte. Ce qui est important, c'est que c'est un prêt. Voilà, pour dire les choses juridiquement, celui qui vous prête le camion, c'est un prêt. Et le prêteur, a priori, celui qui vous prête quelque chose, doit vous le prêter pour que l'objet prêté remplisse l'usage pour lequel vous l'avez emprunté. Donc la petite camionnette, elle va permettre le déménagement des meubles. Voilà, c'est ça que ça dit. Bien, donc, quelque part, il y a une rupture, il y a une inexécution. Votre prêteur, votre camarade qui a prêté son camion, il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui, donc il est en situation d'inexécution. Mais le droit va considérer cette inexécution avec une indulgence, parce que c'est un service. Oui. Donc il y a une prise en considération du comportement moral qui est source d'indulgence d'un point de vue juridique. La crainte révérentielle, qu'est-ce que c'est?
Alors la crainte révérentielle, c'est la crainte que peut avoir un enfant envers ses parents.
Oui.
Donc.
Pas seulement, il y a aussi la. C'est la bon, enfin, moi, je vous attends, mais il y a le professeur, enfin, tout ce qu'on situe comme étant un peu
figure
d'autorité.
Figure d'autorité plus largement. Alors, nous avons tous entendu le célèbre « range ta chambre
». Oui.
Injonction très souvent parentale, moins professorale, quand même.
Oui, non, ça ne s'occupe pas de votre chambre.
Alors là, je vais vous rassurer tout de suite, il n'y aura jamais une mobilisation des forces étatiques pour que vous rangiez votre chambre. Vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. Au niveau de sanctions parentales, je suis moins sûre, donc rangez votre chambre. En tout cas, c'est un exemple de règle qui va s'appliquer au sein de votre cellule familiale, mais qui n'a pas d'incidence juridique. Il n'y a aucune règle juridique.
Oui, sauf au droit à la prendre en considération. C'est-à-dire quand je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas exercer de contrainte sur autrui, et que c'est un vice, ce qu'on appelle, ça entache le contrat d'un vice si on l'a fait sous la contrainte qui s'appelle le vice de violence. Ça n'est plus inscrit dans les textes, mais ça l'était autrefois. On considère que la crainte à l'égard des parents, la crainte révérentielle, en tout cas à l'égard de l'autorité, n'est pas constitutive. Crainte qui peut susciter de la contrainte, on se sent obligé de le faire pour faire plaisir à ceux sous l'autorité desquels on est placé. Eh bien, cette crainte-là n'est pas considérée comme une contrainte illégitime au sens du droit. Et donc, on a toujours admis, en principe, que la crainte révérentielle était tolérable. Donc, il y a un moment où voilà, il faut arrêter d'être un petit garçon ou une petite fille, il ne faut plus avoir peur de ses parents. Mais si vous continuez à rester dans cet état d'immaturité trop longtemps, eh bien, tant pis pour vous, le droit ne viendra pas vous aider. Quand on est malade, est-ce qu'on est contraint?
Est-ce qu'on est obligé de faire le vaccin? Est-ce qu'on est obligé
d'aller avec son ordonnance? Une ordonnance.
Ordonnance, qui est totalement ordre. Est-ce que vous allez chez le médecin et que vous sortez avec votre jolie ordonnance, vous devez forcément aller chez le pharmacien chercher vos médicaments. Là encore, il n'existe pas de contrainte juridique. Personne ne vérifiera que vous êtes bien allé chercher vos médicaments lorsque vous sortez du médecin, malgré que le mot puisse prêter à confusion, en fin de compte. Mais il existe des injonctions thérapeutiques.
Il peut y avoir des contraintes de vaccin, mais ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique, là, on voit bien qu'on passe d'une contrainte médicale, mais qui va devenir une contrainte juridique, c'est l'hypothèse du malade qui est dans une situation telle que sa maladie est source, en tout cas lui fait produire des actes délictueux. Donc l'exemple typique, c'est une personne qui est dépendante aux stupéfiants, quel qu'il soit, et qui, pour pouvoir se les acheter, décide d'en faire le trafic. Bon, ben, on peut prononcer contre lui une injonction thérapeutique pour essayer de soigner le mal par la cause. Et là, pour le coup, l'injonction, il faut la suivre. Donc on passe d'une contrainte thérapeutique, médicale, une contrainte juridique, le droit ajoute sa contrainte. Vous voulez pas mal balayer là, toutes ces contraintes.
C'est question.
Alors, les différents effets de droit, c'est un point auquel je ne suis pas le seul, mais je me suis aperçu en parcourant les différentes introductions que publient mes collègues que ce souci était partagé, que vous compreniez tout de suite dès la première année que le droit, ce n'est pas uniquement le code de la route. Ce n'est pas des obligations, des interdictions, des permis de stationner, etc. C'est beaucoup plus riche. Et dans les effets de droit, ce qu'on trouve après les conditions, la règle, il y a des effets, les effets de droit, ce peuvent être des prescriptions, mais ce peuvent être aussi des habilitations ou de simples déclarations. Et donc, on va faire un petit jeu. Moi, je vais lire des textes, puis vous allez me dire comment vous les situez. Alors, l'article 18... du Code civil. Donc l'article 18, c'est pas le dernier, c'est sur la nationalité. On dit tout simplement « est français l'enfant dont l'un des parents est français ». Comment vous voyez ça?
Moi, je vois ça comme une déclaration. C'est une constatation du droit d'une situation qui est établie.
Alors, « est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents, au moins, y est lui-même né ».
Également une déclaration. On reste dans la même,
c'est ce qu'on
dans
appelle,
la même construction, ouais. Dans la même idée.
Alors, certains disent, hein, je vous dis quand même, que pour ce type de règle, en réalité, c'est une règle qui définit les conditions d'acquisition, d'attribution de la nationalité. On verra toutes ces variantes un peu plus tard. Mais ce sont des règles qui se contentent de définir les conditions d'autres règles. C'est-à-dire, on dit, si vous êtes national, vous aurez le droit, etc. etc. Je crois que, non, au contraire, d'abord, le droit dit aux, aux jeunes nés en France, s'ils sont français ou s'ils ne le sont pas, et le droit dit qui on est. Et ça, je crois que c'est quand même une chose qui est importante. Et on peut d'ailleurs agir dans le seul but de se faire déclarer français, c'est-à-dire le fait d'obtenir la reconnaissance par l'État, par les autres, de sa qualité de français. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. C'est un devoir moral ?
Oui, mais pas seulement juridique, puisqu'il est dans le code civil.
Oui. Et alors, obligation, déclaration ?
Pour répéter ?
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
J'aurais dit plutôt une prescription.
Bah ouais,
On prescrit une obligation
en nature positive. Mmh, oui. Il faut respecter.
Ah, nature positive, c'est-à-dire qu'il y a des obligations de nature négative.
Bah, il peut y avoir des interdictions, je dirais.
Oui, alors c'est... encore des subtilités.
Oui.
Parce que... Bon, il est interdit de rouler à plus de 80 km/h, on va dire 130 km/h sur les autoroutes, ça c'est national. Là, on a bien une interdiction. Mais dans un contrat, par exemple, de travail, je m'engage à ne pas faire concurrence à mon employeur, même pendant un an ou deux après la fin du contrat de travail. Est-ce que c'est une interdiction, ça ?
Non, je ne dirais pas que c'est une interdiction. Oui, c'est plus une limitation.
Mais pour le coup, je pense qu'on est bien sur l'obligation négative que vous évoquez. C'est-à-dire que là, on s'engage. Ah, mais c'est bien une obligation. Et derrière, il y a une contrepartie. C'est qu'on va pouvoir demander une contrepartie financière. Donc, vous voyez, l'interdiction, l'obligation négative, on peut déjà percevoir une petite nuance. Rassurez-vous, pour l'instant, on retenait interdiction, mais c'est important. Alors, l'article 371-1 dit « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». Qu'est-ce que c'est que ce type de règle ?
Bah, ça, ce sont des règles qui sont plus de l'habilitation, qui sont de l'ordre de l'habilitation.
Oui.
On va vers l'habilitation, déjà, on l'a définie.
Mais qui a l'autorité parentale ?
Qui a l'autorité parentale ? Elle est exercée en commun par les deux parents.
Oui. Voilà. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que on voit bien que la définition de l'autorité parentale, c'est de dire l'autorité parentale, c'est le fait qu'on va être investi dans l'ensemble de droits et devoirs. Mm-hmm. Hein, pour les intérêts d'autrui. Cette fonction d'administration qu'on retrouve, cette fonction d'habilitation qui permettra aux parents d'administrer et de veiller à l'éducation des enfants, qui est aussi un élément très important un effet de droit tout à fait important dans l'ensemble des règles de droit. Il y a aussi il y a les parents qui administrent la famille, il y a le chef d'entreprise qui dirige l'entreprise, il y a l'administration avec un chef d'administration, mais vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus large et qui intéresse.
Oui, notamment dans le cadre du couple, parfois quand l'un est atteint d'une maladie ou d'une déficience mentale, l'autre peut être habilité à prendre certaines décisions qui vont concerner la famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'habilitation, c'est... Alors, on ne va pas se référer au terme juridique, mais la possibilité pour quelqu'un d'exercer certaines prérogatives.
Et alors, tout à l'heure, j'avais cité les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Bon, c'était un peu mes crayons, d'ailleurs. Là, on a une phrase qui se présente comme une déclaration. Hein, et en même temps, on voit qu'elle se présente comme une déclaration. Mais en réalité, ce qu'elle dit, cette phrase, c'est que les créanciers concourront à égalité, donc auront des droits, en principe, auront des droits égaux sur les biens du débiteur. Donc là, c'est bien une règle qui donne des droits, et on est plutôt dans l'ordre de la prescription, quand même la règle se présente comme étant une simple déclaration. Les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers. Derrière ce qui a l'apparence d'une déclaration, en réalité, il y a une prescription. Et donc ça va être le métier du juriste, que de savoir identifier dans la règle, quelle que soit la formulation retenue, si on a de la prescription, de l'habilitation, ou une simple déclaration. Habilitation, déclaration, prescription... Voilà démonstration par l'exemple de ces différentes catégories qu'on rencontre parmi les effets de droit. Vous avez vu que déjà on a commencé à entrer dans la subtilité des choses. Il est temps d'aller plus loin et d'entamer la troisième séquence de notre émission pour aller plus loin. Pour aller plus loin, mais c'est pour essayer de traiter de questions dont on ne parle pas forcément en cours. Donc il peut y avoir quelques traces dans le cours écrit, mais pas forcément. Et pour aller plus loin, c'est d'essayer sur des situations réelles de voir comment on peut mobiliser les connaissances élémentaires qui ont déjà été transmises et qu'on espère en cours d'acquisition. Deux thèmes, les lois mémorielles et l'affaire Vincent Lambert. Donc, deux sujets pas très drôles. Les lois mémorielles, on va surtout parler, enfin pas seulement, bon, je vais commencer moi par vous parler de la loi dite Guesso, GAY2SOT pour l'initiateur de la loi, du 17 juillet 1990, loi qui crée le délit de négationnisme du génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette loi, on peut dire qu'elle pose une règle relativement simple, c'est que quiconque tient des propos négationnistes commet un délit. Donc on a une règle qui interdit de tenir des propos négationnistes, et si on ne se conforme pas à cette règle, on s'expose à une sanction pénale, donc jusqu'à présent, rien de très original. Sauf que, le négationnisme, ce délit, concerne une séquence historique. Ça veut dire que le droit donne à une séquence historique une valeur juridique, ce qui fait que la règle se borne à dire ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ça, c'est tout à fait surprenant qu'une règle, ici, soit même pas une prescription, soit même pas une habilitation, soit même pas une déclaration, c'est une règle qui est descriptive. Et comment on peut analyser ce type de règle qui donne à une vérité historique une portée juridique ? Est-ce que c'est bien ça qui se passe ?
Alors, il y a eu beaucoup de débats sur cette question, notamment sur le fait que la loi reconnaissait une version de l'histoire et le fait qu'elle avait donc une visée qui était plus symbolique, et de savoir si la réelle visée de la loi doit être symbolique. Mais là où nous voudrions vous emmener, c'est sur le fait que la loi Guesso pose une incrimination. Incrimination qui a été insérée à l'article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il y a eu de nombreux débats sur cette loi, de nombreuses volontés de modification de cette loi. Et en fin de compte, le Conseil constitutionnel est revenu par trois fois, et sur cette question de modification. Une première fois en 2012, où le Conseil constitutionnel a déclaré qu'une loi ne pouvait à la fois reconnaître et sanctionner une vérité historique, à savoir elle ne peut pas la reconnaître et à la fois sanctionner toutes les dires qui seraient contraires à cette dernière. En 2015, il y a une nouvelle décision sur laquelle je ne vais pas m'apesantir. Et en 2016, il y a une décision.
Décision intéressante, celle-là, oui.
2016-745, pour ceux qui veulent, dans un bon acquis de conscience, aller la regarder et la lire.
Oui, faut la lire.
Voilà, point 195 et suivant. Où il y avait une volonté de modification de cet article.
Mais c'est très important d'aller lire ces décisions, parce que les décisions du Conseil constitutionnel sont quand même écrites pour être lues. Non, mais par le plus grand nombre. Il faut quand même imaginer. Eva va vous expliquer le sujet de la décision et on pourra en reparler. Mais vous allez comprendre que, vu le sujet abordé, il n'y a pas que des juristes qui ont lu cette décision. Donc, vous pouvez la lire, elle est aussi écrite pour vous.
Voilà, et en fait, dans cette décision, le Conseil constitutionnel vient dire que c'est seulement les vérités historiques qui ont été reconnues par une juridiction française ou étrangère qui seront, qui seront considérées. Puisqu'en effet, sinon, dans les cas contraires, le juge devant qui le délit de négation serait porté va devoir statuer à la fois sur la vérité historique, mais à la fois sur le délit qui lui est soumis. Dans cette mesure, il a dit que ce n'était pas possible et a déclaré le petit 2, mais ça vous le verrez en lisant la décision du Conseil constitutionnel, le petit 2 inconstitutionnel. Inconstitutionnel.
Oui, non, ce qui est important, c'est qu'on reconnaît le délit de négationnisme sur le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, mais seulement sur ce cas-là, parce qu'il était reconnu. Oui.
Mais après, les autres ont dit et nous, puisqu'il n'y a pas, malheureusement, dans l'histoire des tragédies. Un certain nombre d'autres peuples, d'autres ethnies ont été frappés. Simplement, la différence, et c'est là que le Conseil constitutionnel fait preuve de beaucoup de subtilité, c'est que le génocide des Juifs fait l'objet d'un grand procès, qui est le procès de Nuremberg, et qui se tient dans les conditions d'un procès, et qui permettent aux juges qui sont saisis de faire œuvre de juge et de porter un jugement, mais en temps utile, sur une séquence historique. Et donc, il n'y a pas de discussion. En revanche, demander à un juge de se faire juge 50 ans, un siècle, deux siècles après, d'une séquence historique, c'est lui demander de faire l'histoire. Eh bien, ni le législateur, ni le juge ne sont là pour faire de l'histoire. C'est ça que dit le Conseil constitutionnel. Et on se disait tout à l'heure que peut-être on pourrait avoir le même type de loi pour des génocides qui ont fait l'objet d'une séquence judiciaire. Je ne sais pas, on pensait à la Yougoslavie, enfin, en tout cas des séquences qui sont moins... on pensait au Rwanda. Alors, peut-être que vous me disiez, Léna, que ce que fait la Cour pénale internationale, certains la contestent, mettent en évidence la dimension politique, que peut-être, finalement, la vérité historique a quelque part rien à faire en droit, enfin, sauf si elle est traitée judiciairement en temps utile, et que soit c'est une affaire d'historien, soit c'est une affaire de politique.
De politique, nous pouvons prendre l'exemple de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui s'est rendu à Hiroshima. Vous savez, c'est un endroit chargé d'histoire. Il n'a pas présenté d'excuses pour ce qui s'est passé à Nagasaki, à Hiroshima, mais son geste, il est quand même catalogué de très politique, très historique, et c'est quand même un pas important. Après, la négation de tous ces faits historiques par les Turcs, par exemple, par rapport au génocide arménien, ou par les Allemands ou par les Japonais, ça reste un débat ouvert.
Voilà. Donc, ce n'est pas le rôle du juriste, ni du législateur, ni du juge, de se faire historien. Et bien sûr, l'histoire n'est pas quelque chose de neutre, mais si notre passé n'est pas complètement neutre, c'est aux politiques de le prendre en charge. On ne peut pas demander au juge de porter cette charge-là. Je crois que c'est ça que le Conseil constitutionnel a dit, et plutôt sagement. On a une autre affaire dont on voulait parler pour aller plus loin et pour montrer que vos premières connaissances vous permettent d'appréhender, en tout cas de vous faire un jugement, et vous allez voir lequel, pas n'importe lequel, sur des choses très sensibles dont on a beaucoup parlé. L'affaire Vincent Lambert. On ne va pas prendre parti sur la qualité de la décision qui a été rendue, ce n'est pas le sujet. Simplement, tout le monde sait que cette affaire est triste, infiniment triste, et qu'elle a été, participe de sa tristesse, sa conflictualité, c'est-à-dire ce conflit irrésoluble entre des parents et une épouse et des frères et sœurs sur le sort d'une personne en état de coma végétatif. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation, enfin, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette situation de conflit a montré comment des personnes déterminées pouvaient absolument utiliser toute la palette des instruments juridiques pour essayer de se faire entendre et, in fine,
ne pas avoir été entendu pour les demandeurs. Alors ça commence devant la juridiction administrative.
Oui, exactement, mais déjà à titre préalable, oui. Je pense que ce qu'il faudrait préciser, et la question qui nous revient souvent, c'est comment est-ce possible qu'il y ait eu autant d'ordres juridiques qui soient mobilisés? Comment se fait-ce qu'on a des arrêts du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, civil, au pénal, qu'il y en ait partout? Ce qu'il faut savoir, c'est en fonction de l'acte qui est contesté qu'on ira devant telle ou telle instance. Et d'ailleurs, Elena voulait vous parler donc des tribunaux administratifs, pardon, qui ont été saisis par les parents d'enfants.
Ça commence, c'est ça, devant la juridiction administrative.
Mm-hmm. Exactement.
Vu que nous avons eu une décision prise par les médecins d'un hôpital public, bien sûr, les juridictions administratives sont intervenues. Vous savez déjà la répartition, la division entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif en France. Et donc, ce sont les juridictions administratives qui sont intervenues à plusieurs reprises. Et finalement, nous avons eu des arrêts du Conseil d'État concernant...
C'est une juridiction administrative.
C'est ça. Concernant l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation du patient Vincent Lambert, qui a été décidé par les médecins qui prenaient soin de lui, et sur la base du Code de la santé publique.
Alors, je fais une petite incise, parce que le texte du Code de la santé publique, c'est l'article 1110-5-1 du Code de la santé publique. Le Code de la santé publique, dans les premiers articles, énonce le droit au traitement du patient. Et cet article 1110-5-1 dit que le droit au traitement approprié peut être suspendu lorsque le traitement paraît inutile, disproportionné, ou qu'il s'agit de maintenir artificiellement la vie. Et on évoque selon la volonté du patient ou à défaut selon une procédure collégiale, bon, en gros le personnel soignant et les membres de la famille. Mais vous voyez, je fais cette incise parce que dans le cours d'introduction, on oppose les règles avec des conditions bien définies, puis les principes où on pose un principe qui sont clairs dans leur compréhension mais qui sont parfois difficiles à articuler les uns avec les autres. Et là, on se trouve en présence d'une règle, mais dont les conditions sont tellement incertaines, inutiles, disproportionnées, procédures collégiales. Et en fait, on voit qu'on a quelque chose qui est entre la règle et le principe. Enfin, ça se présente comme une règle, mais finalement, c'est plus un processus de décision que propose le Code de la santé publique. Juste ça, si ça reste, c'est trop confus, vous oubliez, mais concevez déjà, et c'est peut-être pour ça, c'est ce qui fait la complexité de l'affaire Vincent Lambert, concevez déjà qu'entre la catégorie règle et la catégorie principe, eh bien, le droit produit des intermédiaires qu'on ne manie pas très très bien, d'où peut-être aussi cette multiplicité de procédures. Donc c'est parti devant la juridiction administrative, c'est aussi parti devant la juridiction civile.
Oui,
pourquoi?
En effet, parce qu'il y avait une décision concernant la mise sous tutelle de Vincent Lambert, tutelle qui serait... Ah voilà, exactement, règle d'habilitation, plus précisément droit des incapacités, si vous voulez vous renseigner sur le sujet. La femme de Vincent Lambert était désignée comme sa tutrice. Cette décision a été contestée par les parents de Vincent Lambert devant les tribunaux, cour d'appel et cour de cassation. Ils ont donc, petit point terminologique, interjeté appel, puis formé un pourvoi en cassation. C'est important de bien respecter les termes, notamment dans la méthodologie de la fiche d'arrêt que vous verrez au cours de ce semestre. Donc là, par deux fois, les parents... En toute instance, en fin de compte, les parents de Vincent Lambert ont été déboutés de leur demande, c'est-à-dire que leur demande a été rejetée et ne leur a pas été fait droit.
Alors, je vois que le temps tourne, allez, là, mais on va terminer sur cette affaire Vincent Lambert. Ça part au pénal.
Ça part au pénal parce que nous sommes arrivés à des accusations de tentative d'assassinat, par exemple, ou de non-assistance d'une personne en péril. Et l'affaire est arrivée devant le juge d'instruction, effectivement.
C'est quoi un juge d'instruction ?
C'est le juge qui, dans les affaires les plus graves, informe et essaye d'établir la vérité.
Très important en matière pénale, puisqu'à la fin de la procédure, on décide si une personne va ou non en prison. Hein. Donc on prend son temps avant de savoir, pour vraiment tirer les choses au clair et faire la vérité. Bon, là, évidemment, ça n'aboutit pas, puisqu'on ne peut pas accuser de tentative d'assassinat, non-assistance, une équipe médicale qui ne fait qu'appliquer des dispositions prévues par le Code de la santé publique, donc qu'on n'est pas en infraction à respecter la loi. Mais bon, alors du coup, devant l'insatisfaction des décisions rendues par les juridictions internes, ça remonte. On arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Voilà, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, deux en 2015 et un plus récemment. Moi, je vais vous parler uniquement de ceux de 2015. Alors en 2015, c'était la décision du Conseil d'État qui était contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme. il faut savoir que pour saisir...
C'est l'État qui autorise l'arrêt des soins.
Pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut que l'ensemble des voies de recours internes soient épuisées. Donc, une fois que vous avez fini en France, vous allez devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, l'argumentation des parents de Vincent Lambert se basait notamment sur l'article 2. Article 2, je crois que nous en avons parlé tout à l'heure, c'est le respect du droit à la vie.
Voilà, principe. Donc, oui, voilà. On va devant la Cour.
Inconditionnel, vous l'avez dès la naissance. Donc, et là, encore une fois, la Cour de CEDH a débouté les parents de leur demande. Et donc n'a pas fait droit à...
Là aussi, ce sont des décisions qui sont intéressantes à lire parce qu'elles sont... Vous imaginez bien que c'est écrit pour que tous les intéressés, dans cette affaire particulièrement dure, puissent comprendre la décision et qu'elle soit intelligible.
Surtout que la Cour européenne des droits de l'homme, les décisions sont extrêmement compréhensibles en fin de compte. Alors c'est très long, ça je vous l'accorde, mais c'est extrêmement détaillé. C'est-à-dire que si vous prenez l'arrêt... Enfin, il y a des communiqués de presse qui ont été faits sur l'affaire. Enfin, vous pouvez vraiment trouver différentes sources.
On critique beaucoup la Cour européenne, mais quand même, quand on lit les décisions, on voit qu'il y a un sacré travail qui est fait.
Et c'est très structuré.
Procédure. Et puis, qui serait capable de bien juger ce type d'affaire? En tout cas, là, on sait que le travail est fait. Et avec ça... Alors, c'est pas fini, la Cour européenne donne tort, mais ça continue.
Oui, ça continue sur le plan international avec le Comité des droits des personnes handicapées, qui est chargé de veiller au respect de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Il a pris des mesures provisoires, c'est-à-dire... dire à l'État, il n'a fait que dire à l'État français de ne pas mettre en exécution la décision prise par le Conseil d'État, c'est-à-dire l'accord de...
Est-ce que c'est une juridiction, ce comité? Est-ce que c'est un tribunal qui prend des décisions qui s'imposent comme celles de la Cour européenne? Parce que quand la Cour européenne juge, les juridictions françaises sont obligées de suivre, et les autorités françaises doivent suivre ce que la Cour européenne a décidé. Là, est-ce qu'on est obligé?
Non, c'est un avis.
C'est un avis. Alors, ce qui se passe, c'est que, et c'est la fin de l'affaire, in fine, les parents, forts de cet avis... Là, vous allez voir, on arrive à l'ultime point de complexité, se présente non plus devant la juridiction administrative, non plus devant la juridiction pénale, mais devant à nouveau les juridictions civiles, pas sur les questions de tutelle, mais sur la question de la suspension de la décision prise par l'établissement public d'arrêter les soins du malade. Et alors là, dernière subtilité, pourquoi est-ce qu'on va devant la juridiction judiciaire? Parce qu'il y a un vieux principe qui est que le juge judiciaire est le gardien des libertés auxquelles on peut ajouter les droits fondamentaux. Et quand l'administration est considérée comme abusant des pouvoirs qui sont les siens, en abusant, porte atteinte à ses libertés, le juge judiciaire retrouve sa compétence au nom de ce qu'on appelle la théorie de la voie de fait. C'est la raison pour laquelle l'affaire a été portée devant les juridictions judiciaires, qu'elle a fini par arriver et s'achever, trouver son terme, devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui est la formation la plus solennelle, qui, le 28 juin 2019, décide qu'il n'y a pas de voie de fait, il n'y a pas lieu à saisir les juridictions de l'enjeu judiciaire. La messe est dite et l'affaire se termine. Comme vous le savez, voilà, le droit ne traite pas que de questions drôles, faciles. Mais c'est précisément ce qui fait l'intérêt de cette discipline, que dans les situations les plus compliquées, les plus complexes, d'essayer au moins de trouver des solutions. Voilà, on est allé assez loin aujourd'hui. On ira encore plus loin la prochaine fois en étudiant les fondements du droit. Merci de nous avoir écoutés. Merci Maëva.
Merci
Léa. À très bientôt. Au revoir.